La revue de presse internationale, Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse ce matin, une grande partie de l'attention se porte sur la saga de la politique américaine. Une fin d'année tumultueuse aux États-Unis avec pour dernière péripétie la nomination surprise par Donald Trump d'un nouveau ministre de la Défense.
Et les journaux ce matin s'étonnent de voir Jim Mattis, général 4 étoiles, très respecté, remplacé dès le 1er janvier. C'est Donald Trump en personne via Twitter qui l'a annoncé hier. Après plusieurs jours d'une couverture médiatique plutôt éloignée, du militaire fraîchement retraité et qu'on imagine avoir particulièrement agacé le président américain, nous raconte CNN. Mattis, ministre de la Défense, n'était bien entendu pas un opposant à Trump, mais il n'avait pas sa langue dans sa poche et montrait sans retenue des accords avec la politique étrangère engagée par la Maison Blanche. Au point donc, jeudi dernier, de démissionner tout juste après que Donald Trump ait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Jim Mattis, comme de coutume, devait quitter ses fonctions après une période de transition de quelques semaines. Le président américain a finalement décidé qu'il n'y en aurait pas. L'ère Mattis doit être balayée vite. Le 1er janvier 2019, le poste sera donc récupéré par Patrick Shanahan, un homme présenté comme très talentueux par Donald Trump et avec un profil totalement différent de son prédécesseur. Pour El País, qui peint son portrait dans ses colonnes, c'est un vétéran de l'industrie des armes sans être un vétéran de guerre. Il se défend pourtant de bien connaître le sujet avec un père qui a fait le Vietnam et une carrière irréprochable chez Boeing, notamment la division Defense, Space and Security, l'une des plus importantes firmes militaires privées au monde. Chez Boeing, il était le fix-it man, le bricoleur, l'homme répartout, nous explique Fox News, celui qui a sorti la compagnie de nombreuses difficultés. Ce n'est qu'au début d'année 2017 que Shanahan quitte l'entreprise pour devenir le numéro 2 de Jim Mattis à la Défense. Sur ses débuts en politique, l'hebdomadaire Defense News évoque quelqu'un qui semble peu porté sur la politique et la géopolitique, mais plutôt un business guy, caractéristique qu'il partage, tiens, avec le patron de la Maison Blanche. Parmi ses faits d'armes, si vous me passez l'expression, celle notamment d'avoir fait machine arrière sur la question des bombes à sous-munitions. Elles sont aujourd'hui bannies par 102 pays en raison du fort risque de dommages collatéraux quand elles explosent. Les États-Unis se sont engagés à ne plus les utiliser il y a environ 10 ans. Les stocks de bombes, précise le New York Times, devaient être détruits. Shanahan est revenu sur cet engagement, laissant à l'armée la possibilité d'écouler les stocks. Pas de gâchis ainsi. Pour ces différentes raisons, on comprend qu'il plaise à Donald Trump. Selon des proches du président américain cités par le New York Times, Trump l'apprécie car Shanahan lui dit souvent qu'il a raison de s'agacer, en particulier du coût des systèmes de défense actuels. Il est visiblement celui qui murmure des mots qui sonnent doux aux oreilles du président. Réforme du système, modernité, performance. Et on peut comprendre aujourd'hui que Donald Trump cherche à s'entourer de profils qui lui ressemblent et le soutiennent. Lui qui a toujours, selon le New York Times, est bien isolé en ce moment à la Maison Blanche, au point de régulièrement insulter ses propres conseillers de fucking idiots pendant des réunions dans le bureau ovale.
On va pas traduire.
Un président en guerre contre sa propre administration, résume le journal. Un drôle de spectacle que déplorent aux États-Unis les conservateurs comme The Hill, pour qui le cabinet de Trump se réduit à peau de chagrin, mais qui en revanche amuse la presse internationale. Le Bild comptabilise par exemple le nombre de membres du gouvernement partis depuis le début du mandat. 30 personnes, dont deux chefs d'état-major, deux directeurs de la communication et un porte-parole. Au suivant, s'interroge le quotidien allemand.
Et puis, loin des turpitudes américaines, c'est un autre spectacle qu'on peut voir dans les journaux, les images et les récits du passage du tsunami ce week-end en Indonésie, Adrien.
Oui, les photos de l'épaisse fumée grise qui s'échappe du volcan en éruption provoquant le tsunami qui a fait 281 morts. Selon le nouveau bilan présenté ce matin, une mise en avant sobre faite par le Times of India. Aussi celle choisie par Al Jazeera et le Corriere della Sera, un homme, peut-être un secouriste, qui tient dans ses bras un rescapé en pleurs avec une main réconfortante sur son visage, mais le regard dirigé sur le spectacle de désolation autour de lui. Mais dans ce genre de situation, on le sait, les photos les plus frappantes des catastrophes sont celles qui montrent comment la vie et le temps se sont arrêtés. En particulier ce cliché à retrouver dans le Jakarta Post, des synthétiseurs étalés par terre, une guitare et une basse dont on devine que certaines cordes ont été arrachées par la violence des vagues qui les ont emportées, symbole de ce moment de vie coupé net. Ce concert donné près de la plage en plein air par le groupe Pop 17, les vidéos du groupe en train de jouer, submergées par les vagues, circulent sur les réseaux sociaux, mais cette photo-là, elle vaut toutes les images.
On termine, Adrien, avec un dernier cliché, plus heureux, plus en phase avec la période de Noël.
C'est à retrouver en ligne sur le Middle East ailleurs. À vrai dire, c'est une série de photos qui accompagne un article sur les fêtes de Noël à Bagdad, des Irakiennes, foulards sur la tête, en train de faire leur shopping, des Pères Noël, des sapins décorés de guirlandes, de boules et de pommes de pin, et dans le reflet d'une vitrine, un bâtiment qu'on devine être une mosquée. L'esprit de Noël, peut-on lire, a gagné la capitale irakienne ces dernières semaines, puisque cette année, contrairement aux autres, les célébrations ne coïncident pas avec celles du Muharram, très importante pour les chiites, majoritaires dans le pays. Que la minorité chrétienne puisse fêter Noël de la sorte, selon le journal, est une preuve de stabilité du pays, d'une certaine fraternité qui y règne, loin des images de pays ravagés que les médias occidentaux ont l'habitude de proposer, qui pourtant sont bien réelles, elles aussi. Appelons ça alors la trêve médiatique de Noël.
Merci beaucoup Adrien Toffolet. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.